présenter la traduction de nouvelle traduction française de 1984, qui a été faite par Célia Isoard, qui est juste à ma gauche. Et voilà, c'est une édition qui n'est sortie qu'au Québec pour l'instant, vu que les droits ne sont pas sortis en France. Et voilà, je vais peut-être me laisser présenter d'entrée et puis je compléterai si tu as des trucs à dire. Voilà.
Ok, bonjour à tous et très heureuse d'être là, c'est un beau moment. Je tiens à préciser que c'est d'autant mieux d'être là en train de parler de ce livre avec Thomas que donc Thomas, en plus d'avoir co-construit le nouveau kiosque, est correcteur et il a beaucoup travaillé sur la relecture, la finalisation de la traduction. On a passé de longues journées et de longues soirées ensemble à relire plusieurs versions, c'était très amusant. Et donc je le remercie profondément. Et donc là, l'idée, déjà, pourquoi une nouvelle traduction? J'imagine que vous vous posez la question. Donc quand ce travail a été entamé, il y a 2 ans à peu près, il n'existait que la traduction de Amélie Audiberti, de 1950. Traduction qui était réputée quand même assez problématique. Et donc, moi qui avais lu, comme beaucoup d'entre vous peut-être, 1984 pendant mon adolescence, ma jeunesse, j'en avais un souvenir très profond et en même temps pas précis du tout. Mais quand j'ai entamé ce travail, évidemment, la première chose que j'ai pas faite, c'était d'aller relire la traduction française. Donc j'ai fait confiance à l'éditeur et je me suis dit je me lance là-dedans à blanc et je travaille à partir du texte anglais. Et quand, à peu près un an plus tard, avec Thomas, on a commencé à travailler sur une version finale, on a justement comparé, on a fait ce travail pour essayer de compléter. Non pas pour spécialement compléter mon travail, mais surtout pour voir quelles étaient les différences. On a constaté que dans la traduction que publie donc Gallimard depuis 1950, il manquait plus d'une quarantaine de phrases entières. Et que c'était pas du tout une œuvre de censure du type du ministère de la vérité, mais plutôt une œuvre de négligence, c'est-à-dire qu'il pouvait manquer aussi bien des morceaux de description assez anodins, des morceaux de dialogue. Le fait de sauter une phrase quand on est traducteur, c'est quelque chose qui est assez courant et ça arrive très vite. C'est pour ça qu'on se relie énormément, vu que dans une traduction qui aboutit, ça n'est pas censé arriver. Donc là, c'était plutôt lié au fait qu'en 1950, le roman avait été traduit, mais pas avec le sérieux auquel on y mettrait aujourd'hui, étant donné l'importance qu'il a. Voilà, je ne dirais plus ça. C'est une traduction qui est inégale. Il y a des très très bons passages d'un point de vue littéraire et d'autres qui sont...
médiocres, voire fautifs.
Il y a des contresens un peu étranges, du type... je suis aperçue que dans tout le roman, « coude » était traduit par « épaule ». Ce qui parfois est embêtant parce que justement Winston Smith est frappé au coude pendant les séances de torture dans le ministère de la vérité. Clairement, en lisant la traduction de 1950, il y a cette idée que c'est nécessaire de le faire. Quand bien même, de toute façon, on pourrait défendre l'idée qu'il y a quelque chose de plaisant dans le fait qu'il y ait une multiplicité de traductions pour un même texte et surtout pour un texte classique, et que c'est une manière de travailler sur le sens, de le remettre au travail, et que c'est plutôt un luxe, mais un luxe agréable. Mais là, ça participait d'une nécessité. Et ensuite, au moment où moi j'avais achevé ma partie du travail, en remettant le manuscrit donc, aux éditeurs québécois, qui sont les éditions de La Rue d'Orion, qui l'ont sorti en janvier de cette année. J'ai constaté que Gallimard donc, avait ressorti une traduction, et ce qui était assez prévisible. Donc l'enjeu pour Gallimard, si on fait un peu de... Si j'essaye d'interpréter ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont gardé des œuvres d'Orwell que les œuvres qui se vendent énormément. Notamment La ferme des animaux et 1984. Les autres ayant pu être publiés par d'autres éditeurs beaucoup plus proches du propos politique d'Orwell, qui, autant qu'un romancier, était un satiriste, un polémiste et un moraliste aussi, d'une certaine manière, et journaliste. Et donc, Ivrea, l'Encyclopédie des nuisances ont publié très grande quantité des essais, articles et lettres. Et les éditions Albon ont publié d'autres ouvrages, comme La correspondance d'Orwell, mais aussi une autre série d'écrits politiques. Ça tombe. Et, tu as ajouté quelque chose?
On peut rajouter
Alors, je rajoute immédiatement que, donc, on attend pour une sortie en France, donc janvier 2021, puisque les droits à ce moment-là tombent dans le domaine public, et donc là ce sera publié normalement aux éditions Agon. Et donc avec ce travail-là, moi j'ai eu très envie d'écrire une postface, parce que voilà, ce qui m'avait frappé dans le traitement de 1984 par Gallimard, c'est le fait que c'est juste la traduction et il n'y a rien d'autre, donc c'est traité comme juste un roman. Et bon, pour l'époque, c'était pas tellement étonnant. Mais aujourd'hui, ils l'ont republié. Et ils l'ont republié à nouveau comme juste un roman sans aucun appareil critique. Il n'y a pas de notes de bas de page, il n'y a pas de préface, il y a un propos de la traductrice qui est très 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 court, qui est assez technique et qui fait une page à peu près. Et surtout, ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'il n'y a pas les déclarations qu'a faites Orwell au moment de la sortie de 1984. Il a écrit ce livre plus ou moins sur son lit de mort. Hein, il est mort de la tuberculose en janvier 1950. Et au moment de la parution, aux États-Unis notamment, on s'est beaucoup emparé de ce livre immédiatement comme une œuvre purement antistalinienne. Alors Orwell était antistalinien, certes, mais il a très vite réagi pour refuser qu'on minimise la portée de son œuvre, en expliquant que s'il avait choisi de situer son œuvre en Angleterre, c'était justement parce qu'il tenait à montrer qu'il y avait dans les sociétés occidentales modernes un penchant vers le totalitarisme, un penchant pour le totalitarisme, qui était généralisé et qui n'était pas le seul fait de l'URSS. Et donc il y a deux textes, l'un dans lequel il s'exprime directement et l'autre qui le dicte à son éditeur Frédéric Warburg quand il est encore plus malade, où il tente de remettre les choses au clair. Ça a fait réagir. Donc ça paraissait au moins très très important de publier ça. Voilà. Et donc, sur les différences, c'est toujours amusant, enfin assez plaisant de comparer les différences de traduction. C'est toute une époque aussi. Donc ça, c'est un jeu auquel on peut tous jouer. Et donc là, vous avez du matériel pour y jouer. Ce qui est notable en termes de choix, moi, j'ai fait un travail assez classique. Et bon, voilà, ça m'est difficile de parler de mon travail. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire sous forme plutôt de lecture. Gallimard a fait un choix dans sa toute dernière traduction qui vaut la peine d'être relevé parce qu'il est quand même assez étonnant. C'est comme vous le savez, donc un roman qui parle de l'effacement de la mémoire dans une société totalitaire, la disparition du passé. Et en fait, la traductrice a fait le choix de retraduire complètement le livre au présent, alors qu'en anglais, il est écrit au passé. Par ailleurs, le choix a été fait de changer certains mots qui sont des mots-clés dans l'œuvre, comme le mot de « novlangue », donc « new speech ». Newspeak, que la traductrice a retraduit comme néo-parlé. Son argumentation, c'est que la novlangue ne serait pas réellement une langue, mais un virus introduit dans la langue pour la détruire. Et là encore, moi, j'ai pas du tout... Alors, elle a aussi changé les termes comme la police de la pensée, qui est devenue la mentopolice, le crime de pensée, qui est devenu le mentocrime, des choses comme ça. Et bon, moi, j'ai fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans la traduction de 1950, j'espère que vous me suivez, ça peut être un peu... Dans la traduction de 1950, c'était pas la novlangue, c'était le novlangue. Ce qui est un peu contre-intuitif, parce que c'est la langue au féminin, donc la novlangue, on aurait envie de dire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les lecteurs et le public en général, les locuteurs en France, se sont emparés de ce mot. Ce mot a été extrêmement fécond, en fait, ça s'est révélé un outil pour la pensée au quotidien. On serait bien embêté, en fait, si on n'avait pas un terme comme celui-ci, parce que la langue de bois, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, moi, je me suis empressée d'écrire la novlangue dans ma traduction pour que ça colle à l'usage qu'on en fait. Voilà. Parce que je considère que cette traduction, finalement, est chargée d'un bagage. Et le bagage, c'est la lecture que nous avons faite de ce texte au cours des 50 dernières années. Donc, j'ai gardé les termes clés et j'ai changé là où ça me paraissait nécessaire ou pertinent. Par exemple, pour les ministères, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans 1984, il y a le ministère de la paix, le ministère de l'abondance, qui sont justement transcrits en novlangue dans le roman. Donc il y a Minivers, c'est le ministère de la vérité. Voilà, bon, c'est sur ce modèle-là. Minipax, le ministère de la paix, tout ça. Et moi, j'ai un peu modernisé. Par exemple, j'ai choisi... des formulations en gouve, parce que le point gouve, ça me paraissait important par rapport à l'époque qu'on vit. Donc voilà, je temporalisais comme ça en parlant de passigouve, ministère de l'abondance, plein gouve, etc. Donc j'ai décliné de cette manière-là, mais c'est des tout petits, c'est des petits changements. Et alors, puisqu'on a fait tout ça ensemble, qu'on a déjà beaucoup vu tout ça ensemble.
Ce que je vais faire déjà, c'est que, bon, comme vous l'avez compris, le bouquin est sorti qu'au Québec, donc pas en France en 2022 chez Agon. Du coup, on n'a que deux exemplaires, et c'est les nôtres. Et je vais en faire tourner un, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà.
Et moi, je vous propose, puisque là, on a une session de... d'une petite demi-heure, c'est rapide, de faire tourner des exemplaires de la postface en exclusivité. Mais j'en ai tiré quelques-uns pour que vous puissiez en prendre connaissance.
Célia avait envie de peut-être lire des extraits de sa traduction, qui sont assez représentatifs du texte. Peut-être d'ailleurs que tu voudras dire, je sais pas, parler un peu de... Du corps littéraire de ce texte, c'est pas seulement théorique. Peut-être tu peux en dire deux mots aussi. Je sais pas, sur l'écriture d'Orwell, ou t'as envie de parler de ça, ou
faisons-le entendre et discutons-en.
Ouais,
après.
Voilà. Pour faire entendre la chair un peu du texte, c'est quand même un bouquin qui est extrêmement bien écrit et on s'en rend mieux compte à la traduction de Célia qu'avec la précédente. Et après, peut-être après les lectures, on ouvrira un peu si vous voulez discuter avec nous du bouquin. Voilà, on fera tourner un micro.
Bah, moi, le jeu auquel j'ai envie de vous proposer, de vous prêter, c'est que c'est paradoxal, le sentiment de proximité, le sentiment de familiarité de ce texte. C'est-à-dire que d'un côté, comme vous allez le voir là, on va lire des passages qui parlent d'un autre monde, d'un monde totalement différent. Et pourtant, ça sonne proche, ça donne l'impression d'être dans du connu. Et donc j'avais envie de faire passer le micro après ces lectures pour que vous disiez ce que ça vous évoque, ce que ça vous évoque sur le présent. Alors, les passages qu'on a choisis sont situés dans le réfectoire. Donc vous savez, Winston Smith, c'est un petit fonctionnaire. Il travaille au ministère de la vérité. Donc il doit rectifier, travailler sur le passé. Pour que les versions passées de tout le corpus d'histoire, de propagande, collent avec les annonces faites par le parti. Donc, il traque le passé pour le corriger. Et il est dans le réfectoire, et il discute avec ses collègues.
On peut dire peut-être que Winston, dès le début du bouquin, commence à se poser des questions sur son rôle dans cette machine bureaucratique insensée. Et qui commence à écrire un journal intime, ce qui est absolument interdit, évidemment, c'est quasiment la peine capitale assurée s'il est découvert. Et voilà, il se pose des questions sur cet univers concentrationnaire dans lequel il évolue quotidiennement, quoi. Et le réfectoire est en quelque sorte le reflet de cet univers-là. Donc voilà, le réfectoire est vraiment le reflet de la laideur, de la pauvreté de ce matériel, de cet univers qui est d'une tristesse infinie, quoi. Donc voilà, peut-être bien en extrait.
Winston est à table dans ce réfectoire, assez glauque, comme vous allez le voir, et il discute avec Sam. Sam est un type qui travaille sur la novlangue, il est passionné de novlangue. Et il lui explique tout le bien qu'il pense de cette nouvelle langue, avec la passion de quelqu'un qui est dans son travail et qui aime son travail. Raison pour laquelle Winston aime discuter avec lui, parce qu'au moins, Sam tient à quelque chose, même s'il tient à quelque chose qui en réalité est affreux. Et donc Sam lui dit, en 2050, et même probablement avant, toute connaissance réelle de l'ancilangue aura disparu. Toute la littérature du passé aura été détruite. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, ils n'existeront qu'en version novlangue, transformés non seulement en quelque chose d'autre, mais en quelque chose de contraire à ce qu'ils étaient. Même la littérature du parti aura changé, même les slogans. Comment pourra-t-on avoir une devise du type « la liberté, c'est l'esclavage » alors que le concept même de liberté aura été aboli? C'est tout le climat de pensée qui sera différent. En fait, il n'y aura plus de pensée, au sens où on l'entend maintenant. L'orthodoxie, c'est la non-pensée, c'est n'avoir pas besoin de penser. L'orthodoxie, c'est l'inconscience. Un de ces jours, pense à Winston dans un éclair de conviction, Sam sera vaporisé. Il est trop intelligent. Il voit trop clairement et parle trop franchement. Le parti n'aime pas ce genre de personne. Un jour, il disparaîtra. C'est écrit sur son visage. Winston avait fini son fromage. Il s'écarta un peu sur sa chaise pour boire son café. À la table sur sa gauche, l'homme à la voix stridente poursuivait impitoyablement sa logorée. Assise dos à Winston, une jeune femme, peut-être sa secrétaire, semblait boire chacune de ses paroles. De temps en temps, Winston attrapait des remarques telles que « Vous avez tellement raison, je suis tellement d'accord avec vous », prononcée d'une voix féminine assez bête. Mais l'autre ne s'arrêtait jamais, même quand la fille intervenait. Winston ne le connaissait que de vue. Il occupait un poste important au département des romans. Il avait une trentaine d'années, le cou musclé et une large bouche mobile. Sa tête était rejetée en arrière et du fait de l'angle qu'il occupait, ses lunettes captaient la lumière et présentaient, à la place des yeux, deux disques vides. Détail passablement horrible, dans le torrent sonore qui jaillissait de sa bouche, il était presque impossible de distinguer un seul mot. Une fois seulement, Winston identifia une expression, « élimination totale et définitive du colsteinisme », sortie brusquement de sa bouche et semblait-il tout d'une pièce, comme un bloc typographique d'un seul tonneau. Tout le reste n'était qu'un son continu, un cacardage. Et pourtant, bien qu'on ne pût entendre ce que disait l'homme, le sens général de son propos ne laissait aucun doute. Qu'il fût en train de dénoncer Goldstein et d'exiger un renforcement des mesures contre les criminels de la pensée et les saboteurs, de fulminer contre les atrocités de l'armée eurasienne, de chanter les louanges de Big Brother et des héros du front Malabar, cela ne faisait aucune différence. Quel que fût le sujet, on pouvait être certain que chacun de ces mots était de l'orthodoxie pure, de langsok dans le texte. En contemplant le visage sans yeux dont la mâchoire montait et descendait à toute vitesse, Winston eut le sentiment étrange qu'il ne s'agissait pas d'un véritable être humain, mais d'une sorte de mannequin articulé. Ce n'était pas le cerveau de l'homme qui parlait, c'était son larynx. C'était bien des mots qui s'échappaient de lui, mais ce n'était pas de la parole au sens plein du terme. C'était un bruit émis en toute inconscience, comme le caquettement d'un canard. Un autre passage du réfectoire, ça va ?
Ouais, c'est bien. Passons sur le réfectoire.
Puisqu'on est à l'heure de midi.
Il mange moins bien qu'ici, hein. Ça langue soccer.
Sur le télécran, l'avalanche de statistiques fabuleuses déferlait. Comparativement à l'année précédente, il y avait plus de nourriture, plus de vêtements, plus de logements, plus de meubles, plus de marmites, plus de fuel, plus de bateaux, plus d'hélicoptères, plus de livres, plus de bébés. Plus de tout, en dehors des malades, des criminels et des psychotiques. D'année en année, de minute en minute, tout semblait filer à toute allure vers les sommets. Comme Syme venait de le faire, Winston avait pris sa cuillère et barbotait dans la sauce pâle qui avait bavé sur la table, étirant une longue strie pour en faire un dessin. Il méditait avec amertume sur la texture matérielle de la vie. Les choses avaient-elles toujours été ainsi? La nourriture avait-elle toujours eu ce goût? Il parcourut le réfectoire du regard. Une salle archi-pleine, au plafond bas, aux murs rendus crasseux par le contact d'innombrables corps. Des tables et des chaises métalliques cabossées, si proches les unes des autres qu'on se gênait aux coudes. Cuillères tordues, plateaux ébréchés, grossiers mugs blancs. De la graisse sur toutes les surfaces, de la crasse dans toutes les fentes, et une odeur aigrelette où se mêlaient le mauvais gin, le mauvais café, le ragoût ferrugineux et le linge sale. Toujours dans l'estomac ou sur la peau, vous ressentiez une sorte de révolte, le sentiment d'avoir été floué de quelque chose auquel vous aviez droit. Certes, Winston ne se rappelait pas avoir connu une situation très différente. À toutes les époques dont il gardait un souvenir précis, il n'y avait jamais eu tout à fait assez à manger. Les chaussettes et les sous-vêtements étaient forcément pleins de trous, les meubles avaient toujours été cabossés et bancals, les pièces mal chauffées, les rames de métro bondées, les maisons délabrées, le pain noir, le thé introuvable, le café infect, les cigarettes insuffisantes. Rien en abondance et à prix abordable, sauf le gin synthétique. Et même si, évidemment, on en souffrait plus en vieillissant, n'était-ce pas le signe que l'ordre naturel des choses était vicié si l'on avait le cœur retourné par l'inconfort, la saleté et la pénurie? Les hivers interminables, les chaussettes poisseuses de crasse, les ascenseurs toujours en panne, l'eau froide, le savon râpeux, les cigarettes qui partaient en poussière, les aliments frelatés aux arrière-goûts inquiétants. Comment pouvait-on avoir la sensation que c'était intolérable, sinon parce qu'on gardait comme le souvenir ancestral d'un monde différent?
On vous lit un deuxième extrait. On ne l'a pas du tout préparé, donc la lecture risque d'être un peu bancale, même si c'est bien. Assez bien. On va essayer de se débrouiller. Donc ce second passage se déroule dans un pub. Winston erre un peu dans les quartiers de la ville.
Alors Winston cherche quelque chose de différent, justement. Vous avez peut-être en mémoire qu'il se balade dans les quartiers proles, dans les quartiers prolétaires. Et voilà, et il cherche, et là... Dans la suite un peu de ce que je viens de lire, il cherche à savoir comment était le passé. Il le cherche obsessionnellement, c'est sa quête.
Et il sait que dans les quartiers prolétaires, qui sont complètement laissés en déshérence, ils sont un peu moins soumis aussi à la dictature absolument totale de Langsok. Donc il peut surgir des choses, et il surgit dans le bouquin, de temps en temps des choses qui permettent de croire que tout n'est pas tout à fait perdu. C'est pour ça qu'il fait cette démarche-là. Mais en l'occurrence, on va voir si ce qui se passe.
Ça marche pas toujours.
Ça marche pas toujours.
Winston s'arrêta un instant en haut des marches. De l'autre côté de la ruelle, il vit un petit pub miteux dont les fenêtres semblaient couvertes de givre, mais qui en réalité n'étaient que poussiéreuses. Un très vieil homme, courbé mais énergique, arborant des moustaches blanches pointées en avant comme les antennes d'une crevette, poussa la porte battante et entra. En l'observant, Winston se prit à penser que le vieillard, âgé d'au moins 80 ans, devait déjà avoir la cinquantaine au moment de la Révolution. C'était, avec d'autres comme lui, le dernier maillon qui les liait au monde révolu du capitalisme. Même au parti, il en restait peu dont la formation intellectuelle était antérieure à la Révolution. La vieille génération avait largement été balayée par les grandes purges des années 50 et 60, et les rares survivants avaient depuis longtemps été réduits par la terreur à la plus totale reddition intellectuelle. S'il était une personne encore vivante à pouvoir offrir un témoignage fiable de la vie au début du siècle, ce ne pouvait être qu'un prole. Lui revint soudain à l'esprit le passage du manuel d'histoire qu'il avait recopié dans son journal, et une impulsion un peu folle le saisit. Il entrerait dans le pub, s'arrangerait pour faire connaissance avec le vieil homme et l'interrogerait. Racontez-moi votre vie quand vous étiez jeune, lui dirait-il. Comment ça se passait à l'époque? La situation était-elle meilleure qu'aujourd'hui ou pire? Précipitamment, pour ne pas avoir le temps d'avoir peur, il dévala les marches et traversa la rue étroite. C'était de la folie, bien sûr. Typiquement, aucune règle n'interdisait de parler aux proles et de fréquenter leur peuple, mais c'était un acte bien trop insolite pour passer inaperçu. Si une patrouille surgissait, il pourrait toujours prétendre à un malaise, mais on ne le croirait probablement pas. Il poussa la porte et fut immédiatement saisi par une atroce odeur aigrelette de bière surie. Son entrée fit chuter le volume sonore à peu près de moitié. Il sentit dans son dos tous les regards s'arrêter sur sa combinaison bleue. Une partie de fléchette qui se déroulait à l'autre bout de la salle s'interrompit pendant près de 30 secondes. Au comptoir, le vieil homme qui l'avait suivi se disputait avec le barman, un jeune homme massif et vigoureux, au nez crochu, aux avant-bras énormes. Une brochette d'autres clients, debout, verre à la main, suivait la scène.
« Je vous ai demandé ça correctement, non ?» disait le vieillard en redressant ses épaules d'un air batailleur. « Vous me dites qu'il n'y a pas une pinte dans tout ce satané bastringue ?»
Mais c'est quoi une pinte, bon Dieu de bois ? Demanda le barman, penché en avant, les doigts tendus sur le comptoir.
Vous entendez ça ? Ça se prétend barman et ça sait pas ce que c'est qu'une pinte ? Eh ben, une pinte, c'est la moitié d'un quart. Il y a quatre quarts dans un galop. Va falloir t'apprendre l'alphabet aussi ?
J'ai jamais entendu parler, lâcha le barman. Des litres et des demi-litres, voilà ce qu'on sert. Les verres sont devant toi sur l'étagère.
Je veux une pinte, s'entêta le vieillard. Ça t'aurait coûté quoi de me servir une pinte ? Il n'y avait pas ces foutus litres quand j'étais jeune.
Quand t'étais jeune, tout le monde vivait dans les arbres, rétorqua le barman avec un regard vers les autres clients. On s'esclaffa et le malaise causé par l'apparition de Winston sembla se dissiper. Le visage blême du vieillard avait viré au rose. Il se détourna en maugréant et buta contre Winston, qui le prit doucement par le bras. Je peux vous offrir un verre ?
Ça, c'est un gentleman, répondit l'autre en redressant ses épaules. Il ne semblait pas avoir remarqué la combinaison bleue de Winston. « Une pinte !» ajouta-t-il avec agressivité en direction du barman. « Une pinte de Wallop !»
Le barman fit couler 2 demi-litres de liquide brun sombre dans des verres épais qu'il venait de rincer dans un paquet sous le comptoir. La bière était la seule boisson qu'on servait dans les pubs des proles. Il n'était pas censé boire du gin, même s'il pouvait s'en procurer facilement. Bon, je saute un peu.
Vas-y. Je reprends direct. « Il aurait pu me servir une pinte !» grommela le vieillard en s'installant devant son verre. « 1 demi-litre, c'est pas assez. Ça remplit pas son homme. Et 1 litre entier, c'est trop. Ça fait déborder ma vessie. Sans parler du prix. »«
Les choses ont dû beaucoup changer depuis votre jeunesse, » fit timidement remarquer Winston. Les yeux bleu pâle du vieil homme passèrent de la cible de fléchette au comptoir et du comptoir à la porte des toilettes des hommes, comme si les changements en question avaient surtout affecté l'intérieur du bar.
« La bière était meilleure, » finit-il par dire. Et moins cher. Quand j'étais jeune, la bière douce, on appelait ça de la Wallop, coûtait 4 pinces la pinte. C'était avant la guerre, bien sûr.
Quelle guerre était-ce ? Demanda Winston.
Ah, les guerres, y'a que ça, répondit l'homme évasivement. Redressant de nouveau ses épaules, il leva son verre. À la bonne vôtre !
Dans sa gorge maigre, une pomme d'Adam saillante monta et descendit avec une vitesse surprenante, et la bière disparut. Winston alla au bar et revint avec 2 demi-litres supplémentaires. Le vieillard semblait avoir oublié ses préventions contre l'absorption d'un litre entier. « Vous êtes bien plus âgé que moi, » dit Winston. « Vous deviez être déjà adulte avant ma naissance. Vous rappelez-vous comment c'était dans l'ancien temps, avant la Révolution ? Les gens de mon âge ne savent presque rien de cette époque. On peut seulement s'informer dans les livres, mais ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Les manuels d'histoire disent que la vie avant la Révolution était complètement différente d'aujourd'hui. » Qu'il régnait une oppression, une pauvreté terrible, pire que tout ce qu'on peut imaginer. Ici, à Londres, la majorité des gens ne mangeaient pas à leur faim, de la naissance à la mort. La moitié n'avait pas de quoi se chausser. Ils travaillaient 12 heures par jour, quittaient l'école à 9 ans, dormaient à 10 dans une pièce. Et pendant ce temps, il y avait une toute petite poignée de gens, seulement quelques miniers, les capitalistes, comme on les appelait, qui étaient riches et puissants. Ils possédaient tous les biens. Ils vivaient dans d'immenses maisons luxueuses avec 30 domestiques, se promenaient en automobile, en attelage à 4 chevaux, buvaient du champagne, portaient des chapeaux haute forme. Le visage du vieil homme s'éclaira subitement.
Des hautes formes ? C'est marrant que vous en parliez. J'y pensais justement hier. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ça fait des années que j'ai pas vu en haute forme. Ils ont disparu du paysage, on dirait. La dernière fois que j'en ai porté un, c'était à l'enterrement de ma belle-sœur. Il y a... Je peux pas donner de date. Mais ça devait être il y a 50 ans. Vous imaginez bien que c'était un chapeau de location.
Les hautes formes en soi n'ont pas tellement d'importance, répondit patiemment Winston. L'important, c'est que ces capitalistes, avec les quelques hommes de loi, prêtres, qui vivaient à leur crochet, étaient les maîtres du monde. Tout existait pour leur profit. Vous, les gens ordinaires, les ouvriers, étiez leurs esclaves. Vous étiez à leur merci. Ils pouvaient vous expédier au Canada comme du bétail. Ils pouvaient coucher avec vos filles s'ils le désiraient. Ils pouvaient vous faire fouetter avec ce qu'on appelait un chat à neuf queues. Il fallait enlever sa casquette sur leur passage. Chaque capitaliste était assisté par une bande de laquais qui... Le vieil homme s'éclaira de nouveau.
Laquais, voilà un mot que j'ai pas entendu depuis bien longtemps. Laquais, ah, ça me ramène loin en arrière. Je me souviens, oh, ça fait une paye. J'allais des fois à Hyde Park le dimanche après-midi pour entendre les types parler. L'armée du salut, les catholiques, les juifs, les indiens, il y avait de tout. Un type, je sais plus son nom, mais c'était un parleur de tous les diables, ça oui. Il mâchait pas ses mots. Laquais qui disait, laquais de la bourgeoisie, larbin de la classe dirigeante. Parasite aussi. Et hyène. Il les traitait de hyène, je me rappelle. Il parlait du parti travailliste, évidemment.
L'abattement s'empara de Winston. La mémoire de ce vieillard n'était qu'un fatras de détails sans valeur. On aurait pu le questionner toute la journée sans récolter la moindre information utile. Les histoires du parti étaient peut-être vraies, après tout. Peut-être que tout était vrai. Il fit une dernière tentative. Je me suis peut-être mal fait comprendre. Vous êtes né il y a très longtemps. Vous avez vécu la moitié de votre vie avant la Révolution. En 1925, par exemple, vous étiez déjà adulte. Diriez-vous, d'après vos souvenirs, que la vie d'alors était meilleure que maintenant, ou pire? Si vous aviez le choix, est-ce que vous aimeriez mieux vivre en 1925 ou aujourd'hui? Le vieillard contempla pensivement la cible de fléchettes. Il termina sa bière, cette fois plus lentement. Quand il se remit à parler, ce fut avec un air de philosophie... pleine d'indulgence, comme si la bière l'avait adoucie.
Je sais ce que vous voulez me faire dire. Vous voudriez que je dise que j'aimerais être jeune à nouveau. C'est ce que diraient la plupart des gens si on leur demandait. On a la vigueur et la santé quand on est jeune, alors qu'à mon âge, on a toujours un peu de travers, j'imagine. De travers. J'ai un pied qui me fait méchamment mal, et ma vessie qu'on peut plus. 6 ou 7 fois par nuit, elle me réveille. De l'autre côté, elle est due à plein d'avantages. On n'a plus les mêmes soucis. Plus d'histoire avec les femmes. Et ça, c'est pas rien. J'ai pas eu de femme depuis plus de 30 ans, croyez-moi ou non. Et laissez-moi vous dire que ça m'a pas manqué.
Winston s'adossa au bord de la fenêtre. Il était inutile de continuer. Il s'apprêtait à aller recommander des bières quand le vieillard se leva précipitamment et s'engouffra dans l'urinoir puant qui se trouvait sur un côté de la pièce. Le demi-litre supplémentaire commençait à faire effet. Winston resta 1 ou 2 minutes à contempler son verre vide, puis laissa insensiblement ses pieds le reconduire dans la rue. Dans 20 ans tout au plus, songea-t-il, il serait devenu une fois pour toutes impossible de répondre à cette simple et colossale question. La vie était-elle meilleure avant la Révolution qu'aujourd'hui? En pratique, c'était déjà impossible, puisque les quelques survivants épars de l'ancien monde étaient incapables de comparer une époque à une autre. Il se souvenait bien d'un million de choses inutiles, une querelle avec un collègue, la recherche d'une pompe à vélo égarée, l'expression sur le visage d'une sœur morte depuis longtemps, les tourbillons de poussière d'un matin venteux 70 ans auparavant. Mais tous les faits importants restaient hors de leur champ de vision. Ils étaient comme des fourmis qui ne voient que les petits objets et non les grands. Et comme la mémoire était défaillante et les archives falsifiées, les prétentions du parti à avoir amélioré le sort du genre humain devenaient irréfutables. Il n'existait plus. Il ne pouvait plus jamais exister le moindre référent auquel on pût les comparer. Merci. C'était extrait.
On peut continuer à parler du livre si vous voulez. Et on peut faire tourner un micro si vous voulez poser des questions, si vous avez des remarques.
Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Je sais que c'est compliqué de parler de son travail, mais j'aimerais savoir... Fais-moi la traduction de Liberty, je sais pas, j'ai dû le lire 3 ou 4 fois ce bouquin, depuis que je suis jeune homme. Et il n'y avait rien qui m'avait... c'est quelque chose... Le texte est tellement puissant, aussi faut-il que ce soit la traduction, que c'est un truc qui marque. Et du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est... qu'est-ce qui... Tu t'es pas levé un jour en te disant « Merde, faut que je m'y attaque par la face nord. » Quel était ton cheminement qui t'a donné envie de rebosser ce texte?
Mon cheminement est très simple, parce que c'est pas une idée qui est la mienne. Donc, je travaille avec un éditeur. Okay. Et il m'a dit... Quand même, ça fait 50 ans que Gallimard ne soigne pas cette traduction. C'est une œuvre tellement importante.
Donc tu es proche aussi par les ouvrages politiques que tu as pu traduire auparavant, quoi. Tu pratiques aussi Orwell, tu le lis depuis très longtemps aussi. Donc c'est pas pour rien que ton éditeur t'a proposé cette traduction, quoi. Il y a aussi ça derrière, quoi. D'accord.
Mais voilà, donc c'est pas mon idée.
Ok.
Modestement, je te réponds ça.
Et l'autre truc, c'est que tu as parlé, donc il y en a deux chez Gallimard, il y a la ferme des animaux. Moi, la ferme des animaux, il me semblait que je l'avais en champ libre.
Ouais, je crois que c'est Gallimard a racheté la traduction à champ libre.
Et donc, effectivement. Et c'est qui la traduction?
Je crois que ça va être Michel Pétris, non?
D'accord.
Non, c'est avant Michel Pétris? Je sais plus qui c'est.
D'accord.
C'est Michel Pétris, ouais, okay. Qui est un très bon traducteur.
Oui, parce que la ferme des animaux, c'est quand même pareil, c'est...
Non, mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui n'allait pas,
oui.
Puisque finalement c'est
un
texte qui est fort, ouais. Et qui nous a marqué, qui nous a imprégné, donc ça veut dire qu'il était quelque part bien traduit.
Bah oui, quelque part quand même. Mais même si tu dis qu'il y a des passages complètement inégaux ou que...
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu cette traduction ancienne, donc de 50, en gardant l'idée que le livre est très fort, mais qu'en même temps, tout ce qui est la relation amoureuse. Et en fait, les dialogues et la relation avec Julia, c'est un peu tarte. Voilà. Bon, ben ça représente un tiers du livre. Enfin, c'est une partie très très importante. Donc Winston, en fait, se libère par son doute et par son travail d'écriture, mais il se libère aussi en rencontrant cette fille Julia, qui a l'esprit très pratique, qui est très audacieuse, qui est très impertinente et intrépide, et qui lui apprend des choses. Tout en n'étant pas du tout une intellectuelle, contrairement à lui, et beaucoup plus proche du monde populaire, qui lui apprend à faire confiance à ses sens, à sa sensibilité. Tout le travail du roman, c'est de reconquérir sa sensibilité. Et ben, quand on lit ces dialogues un peu amoureux, et tout ça, on a l'impression que c'est décalé. Le vouvoiement est problématique, il y a plein de choses. On dit, bon, ça c'est dommage, on va refaire ça, ça pourrait être beaucoup plus drôle. Ensuite, il y a des passages très bizarres, par exemple, où on sent que c'est moins soigné. À un moment donné, c'est très grandiloquent, il dit qu'il veut lui offrir des fleurs pour son premier rendez-vous, et que cueillir ce bouquet de fleurs et lui offrir, ce serait comme un holocauste à l'amour. Et on est en 1950. Très étrange d'écrire un holocauste à l'amour. Dans ce livre, l'Allemagne nazie, l'expression l'Allemagne nazie est traduite par nazi germain, German Nazis. Donc voilà, enfin, nazi germain en français, c'est très étrange, c'est pas possible.
Ça marche pas.
Il y a des trucs de fond aussi, comme la proportion des prolétaires qui vivent dans la société de 1984.
Ce qui est un point vraiment essentiel pour comprendre le livre.
Voilà. Et à une occurrence dans cette traduction-là, on nous dit que c'est 25%. Et en réalité, c'est 80%, 75%. C'est l'écrasante majorité. Donc on ne parle pas du même monde, en fait. Et tout ce qui est des passages... Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans ce livre, il y a un grand manuscrit qui est à l'intérieur du roman. Et c'est le livre de Goldstein. C'est donc cet ouvrage politique... qui décrit, ou semble décrire à Winston le fonctionnement de la société dans laquelle il vit, et qui en réalité est un faux écrit par le parti pour canaliser l'esprit de révolte. Et ça, c'est un texte très important en réalité, parce qu'il y a beaucoup d'observations qui sont vraiment des observations d'Orwell sur le tour que prend la société contemporaine à l'après-guerre, très inspirée de James Burnham, qui a écrit sur la bureaucratisation du monde, un sociologue américain. Et donc là-dedans, parce que c'était des textes assez théoriques, il y avait beaucoup de contresens. C'est toute cette partie, et même la partie de l'interrogatoire, avec ce type du parti qui le torture, et qui en même temps est son bourreau, mais a envie de discuter avec lui.
Et son confident.
Là aussi, il y avait des contresens. Mais c'est pas le même niveau de lecture, en fait. C'est vrai que quand on lit un roman, on n'est pas forcément attraqué ce genre de choses. Le plaisir l'emporte aussi. Et l'atmosphère, en tout cas, était restituée, quoi.
On va peut-être reprendre une remarque ou deux de plus si vous avez envie, et puis après on va arrêter parce que t'es attendu sur une table à l'intérieur de la chapelle à 15h.
Salut. Moi je te posais une question sur le fond du roman. Est-ce que on a l'impression que 1984 nous est livré comme une description apocalyptique d'une société à venir, une société qu'on vit, voilà, on va dire de là. Totale surveillance de tout sur chacun, mais quand même dans une perspective, si tu sais, de coup de bâton. C'est-à-dire, à coup de bâton, on a fait rentrer l'humanité là-dedans. Or, l'humanité rentre là-dedans, en fait, de son plein gré. Je crois bien ton avis là-dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire sur le... Il décrit, tu vois, un totalitarisme qui vient d'en haut, on matraque les gens, puis ils rentrent dans des cases. Et finalement, en fait, la télésurveillance nous est arrivée de notre plein gré. C'est une grosse nuance quand même.
Oui, bah c'est ça en fait. Il y a des commentateurs qui disaient en fait, c'est étrange qu'on compare tellement notre monde à 1984, parce que quelque part, Brave New World, le meilleur des mondes là, de Huxley, il décrit une sorte de cauchemar hédoniste, un cauchemar de drogue et de marchandises.
Juste Huxley, qui était le professeur de littérature de Orwell à Eton, c'est ça ? Ce qui est quand même pareil encore.
Donc là, oui, on est dans une société. C'est pour ça, en fait, moi je trouve que c'est un paradoxe qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de pénurie. Le passage de la cantine est très expressif de ce point de vue-là. Enfin, voilà, c'est un monde. Où il n'y a rien, il y a très très peu d'objets, le moindre objet est introuvable, alors que nous on est noyés dans les objets, noyés dans les marchandises. Et deuxièmement, c'est un monde totalement coercitif, alors que le problème de la liberté qui se pose aujourd'hui, il se pose alors même que la société de consommation, la société d'hyperconsommation, joue à plein sur des pulsions individuelles. Qui font partie d'une certaine manière de notre liberté, ou en tout cas que nous considérons comme telle. Et c'est là où il y a un paradoxe, effectivement. C'est pour ça que j'avais envie de vous interroger sur le fait que pourquoi ça vous semble si familier alors que c'est si différent. Mais sur le fin mot, ben voilà, je n'ai pas. Je ne l'ai pas spécialement. Je pense que la manière dont 1984 est construit, c'est aussi un monde dans lequel il y a un personnage de ce point de vue-là. C'est un voisin de Winston, c'est Parsons. Et Parsons, c'est un bon citoyen qui est très heureux et qui fait tout avec plein de bonne volonté. Et Parsons nous montre bien que la majorité des gens et des cadres du parti, ils sont comme ça. Ils sont très heureux du monde dans lequel ils sont et ils se sentent libres. Il n'y a aucun problème pour Parsons. Il n'a pas du tout l'impression d'être surveillé ou bridé plus que nécessaire. Et c'est seulement quand on fait un pas de côté, comme le fait Winston, mais il est très isolé là-dedans, qu'on s'aperçoit que tout ce qui est autour de nous, j'allais dire, tout ce qui est autour d'eux, c'est en fait un système totalitaire où il n'y a absolument pas de liberté. Je trouve ça assez... éloquent le fait qu'on fasse ces lectures après la présentation de Mathieu sur la liberté dans le coma. Et j'avais envie de vous rappeler un des grands points communs qui fait que 1984 aujourd'hui est si précieux. Moi, je trouve qu'elle est aussi contenue dans la remarque d'Orwell qu'on trouve dans ses journaux, où il dit: il se pourrait que l'on arrive à produire une nouvelle race d'hommes n'aspirant pas à la liberté, comme on pourrait créer une race de vaches sans cornes. L'Inquisition a échoué, mais l'Inquisition n'avait pas à sa disposition les moyens qui sont ceux de l'État moderne. Donc, je pense que dans notre société, la question est autant De quelle marge de liberté disposons-nous ? Et moi, dans ma postface, j'ai répondu en disant que, bien sûr, nous ne sommes pas dans une société totalitaire, ni en France, ni au Canada, par exemple. Mais en revanche, nous avons vu se déployer autour de nous une infrastructure totalitaire. Et elle est complète et elle est même infiniment plus efficace et plus totale que ne l'était celle imaginée par Orwell dans 1984. Donc l'infrastructure, c'est très important, une infrastructure.
Elle est déjà là et peut potentiellement s'actualiser, c'est ça que tu veux dire.
Voilà, ouais. Elle peut très, très facilement s'actualiser en Chine. Elle est actualisée. Et donc il y a cette question-là, d'un point de vue de la subsistance, du point de vue de la manière dont nous vivons. Oui, toute notre vie est administrée, nous sommes totalement dépendants. Donc du point de vue politique, nous sommes dans une situation de vulnérabilité qui est immense. Et Orwell insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il avait toujours, au cours de sa vie, qui a été mouvementée, vécu d'une manière en partie autosubsistante. Il était toujours dans des cottages, il avait une activité agricole, il faisait ses étagères, il faisait ses aliments. Donc c'était quelqu'un qui connaissait très bien cet aspect de la vie et qui était révolté de voir qu'on pouvait vivre dans un système où on était dépendant de bons alimentaires, où on était dépendant d'une méga-industrie qui commençait à se mettre en place pour vivre. Et là-dedans est le recul de la liberté. Et je trouve que si les passages de la cantine, du réfectoire sont si forts, c'est parce que c'est vraiment pour lui l'horreur. Et l'horreur, c'est pas simplement que les aliments soient pas bons. L'horreur, c'est qu'on soit absolument dépendant de ce qu'on veut bien nous donner. Et ce qui est vrai pour la nourriture l'est vrai absolument pour tout le reste. Et ça, c'est un point commun, je pense, très fort. Pour la majorité, enfin, pour une grande partie des gens qui travaillent tous les jours, qui vont à la cantine de l'entreprise, dont la vie ressemble à ça, en plus de ce qui nous est distribué dans les grands magasins, où on est dépendant de monopoles aussi bien. Et après, donc, le deuxième volet, c'est le désir de liberté. Donc la question, c'est aujourd'hui, oui, la liberté, pourquoi faire ? Quand on critique la société de surveillance aujourd'hui, la majorité des gens répondent « Mais j'ai rien à me reprocher. » Bon. Et M. Parsons non plus n'a rien à se reprocher.
C'est ce qui arrive d'ailleurs à Parsons, qui est donc vraiment le petit soldat idéal du régime. Et en fait, il finit au ministère de la vérité à se faire torturer comme Winston. Parce que le seul truc qu'il a tenu, c'est en rêvant, je crois. Il lâche des...
C'est pire que ça.
Des dénoncés par son
enfant. En fait, lui, il a été un tellement bon soldat du parti qu'il a élevé ses enfants avec la plus grande orthodoxie. Et ses enfants sont devenus des parfaits petits diables à la solde du parti. Donc, on suppose que par vengeance, sa fille l'a dénoncé en prétendant qu'il avait dit « Abat le parti » pendant son sommeil.
Pendant son sommeil. Donc, la seule chose qui tient, c'est pendant le rêve ou... Le dernier espace de liberté incontrôlé chez personne, c'est ça, quoi. Et il finit très mal. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, mais on va peut-être basculer à l'intérieur de la chapelle. S'il y a il y a quelque chose dehors aussi. Mais Célia, toi, tu dois basculer à l'intérieur de la chapelle parce qu'il y a la discussion sur l'enquête qui va débuter.
Par rapport à 84, j'ai lu un livre il y a quelques temps où on nous disait qu'il y avait un lien, et effectivement, je trouvais qu'il y avait un lien, c'était Kallocain de Karen Boyd.
Ah, oui.
Vous connaissez ça? C'est une Suédoise qui a écrit ça dans les années 30. Et je trouve ça vraiment très intéressant de voir le lien entre les deux, qui est tout pareil dans une dimension totalitariste, où elle avait refusé elle aussi que ce soit assimilé uniquement à une critique.
J'ai lu ça, enfin j'ai lu aussi cette comparaison, mais j'ai pas lu le livre de cette écrivaine. Par contre, il y a d'autres sources d'inspiration, il y a les Amiati, essentiellement. Voilà, peut-être que tu veux en dire deux mots. Mais...
Le roman russe de Amiati, qui a été écrit dans les années 20, qui s'appelle Nous autres, et c'est un petit bijou d'un point de vue littéraire et politique. Une société totalitaire dans laquelle tout est. Et là aussi, les parallèles avec aujourd'hui sont saisissants. Alors même que c'est le cauchemar soviétique, pour le coup, là, ça l'est réellement. C'est ça dont il parle. Et tout a été soumis au règne quantificateur de la raison. La vie n'est que chiffre. Voilà.
Bon, mais je pense qu'on va conclure là-dessus. Et merci de nous avoir écoutés. Il y a une discussion qui continue ici à 15h30 et il y a une discussion qui va commencer dans la chapelle maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Merci.